Serge Billet, bonjour. Votre ouvrage nous amène sur les traces d'une star mondiale, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, répète si t'as des couilles. Alors, quel titre? C'est Johnny qui s'exprime. À qui s'adresse-t-il? Que s'est-il passé?
En 1966, Johnny Hallyday vient pour son concert en Afrique subsaharienne. Mon père travaille à la télévision, c'est une des stars de la RTI. Et mon père a un collègue qui s'appelle George Benson. Et Johnny donc est censé chanter sur le plateau, c'est ce qui avait été conclu avec les organisateurs. Quand Johnny Hallyday arrive, lui n'est pas au courant. George Benson va vers lui pour lui demander quelle chanson vous allez interpréter de façon à ce qu'il puisse préparer la bande-son. Johnny, ne sachant pas qu'il devait chanter, dit non, moi je ne chante pas. George Benson est en colère, il se retourne vers l'organisateur et lui dit « mais vous êtes malhonnête » parce que c'est ce qui avait été conclu. Johnny le prend pour lui et lui dit « répète si t'as des couilles ». Et il a failli lui sauter dessus, donc ils étaient prêts à se battre quand des gens les ont séparés. Si Johnny et Benson s'étaient battus, ben le concert du soir aurait été difficilement réalisable parce que bon, avec des contusions, il n'aurait peut-être pas été capable de chanter.
C'est peu connu dans sa carrière, cette période africaine.
On connaît surtout la période américaine de Johnny Hallyday, la période africaine qui commence en 1966 pour l'Afrique noire, mais bien plus tôt pour le Maghreb, est une période qui était extrêmement importante puisque des millions de fans l'ont vraiment porté au nu. C'est impossible qu'il puisse s'être passé pendant plus d'une décennie une Johnny Mania en Afrique à travers les années yéyé, qui étaient des années très très importantes après l'indépendance, et qu'on ait oublié ça. Donc j'ai voulu restituer tout cela.
Alors justement, on est dans les années yéyé sur le continent africain, avec sa musique, sa mode vestimentaire, les pattes d'elfe pour les garçons et les mini-jupes pour les filles. À cette époque, que représentait Johnny Hallyday, cette mouvance yéyé?
Dans les années 60, on vient à peine de sortir de la colonisation. On rentre dans l'indépendance. Sauf que l'indépendance, c'est une autre affaire, puisque les pouvoirs sont confisqués par des régimes plus ou moins autoritaires. C'est le cas au Mali, c'est le cas en Guinée, partie unique en Côte d'Ivoire. Donc c'est une jeunesse qui, quelque part, n'a pas toute sa liberté, n'a pas la capacité donc de réaliser son rêve. Donc elle se retourne vers quelque chose qui lui apporte cette bouffée d'oxygène. C'est la musique. Et cette musique-là, c'est la mouvance yéyé avec tout ce qui arrive de France, que ce soit Johnny Hallyday, que ce soit Sylvie Vartan, que ce soit Françoise Hardy. Et cette jeunesse est une jeunesse yéyé pendant au moins une décennie, parce qu'elle trouve, dans cette mode vestimentaire et cette mode musicale, elle trouve un moyen d'expression qui lui ressemble davantage, puisque cette jeunesse ne veut pas ressembler donc à ses parents, et ne veut pas non plus se conformer à quelque chose qui est assez fermé comme un carcan politique. Donc elle essaye de s'évader à travers cela.
Vous dites, un pays peut absorber ce qui vient d'ailleurs sans pour autant perdre son âme. L'Afrique a cette capacité.
Quand la mode yéyé s'impose en Afrique, il y a des chanteurs comme Manu Dibango qui font du twist. On voit Alpha Blondy qui est encore tout jeune et qui chante du rock, le pénitencier. On voit le seigneur Rochereau, le père du futur rappeur Youssoupha, qui chante de la rumba mais qui est considéré comme le yéyé du Congo puisqu'il adore Claude François et il prend des danseuses comme Claude François. Claude François avait les Claudettes et lui il avait les Rocherettes. Donc on voit toute cette imprégnation de la musique qui vient d'ailleurs et qui touche nos artistes. On voit aussi une jeunesse africaine qui est complètement donc enfermée dans cette musique yéyé, même s'il y a aussi de la rumba, et même s'il y a aussi de la salsa, et même s'il y a aussi de la musique africaine. Et malgré ça, cette jeunesse et ces artistes restent totalement africains. La preuve, c'est qu'après, Manu Dibango retrouve, j'ai presque envie de dire, ses racines en faisant donc du Makossa. On voit Alpha Blondy qui fait du reggae. En tout cas, chacun a absorbé donc cela et est revenu après à ce qu'il était donc au départ. Donc, c'est pas gênant. On peut absorber ce qui vient d'ailleurs. On peut aimer ce qui vient d'ailleurs sans pour autant se renier soi-même.
Il y a eu quand même une période de répression puisque ça ne plaisait pas à tout le monde et notamment au pouvoir en place.
Oui, il y a des pays où les yéyés faisaient peur. On arrêtait les jeunes filles dans la rue, on les déshabillait, on leur enlevait leur mini-jupe, et les garçons, on les arrêtait, on les emmenait au poste, et on leur rasait le crâne, parce que, effectivement, les pouvoirs en place ne supportaient pas dans toute cette mode yéyé.
Vous traversez comme ça les années 66, les années 70. Johnny Hallyday va revenir à plusieurs reprises, donc sur le continent africain. Et à un moment donné, on le voit plus parce que finalement, il vient au début de sa carrière.
On ne sait pas pourquoi, mais quelque chose s'arrête, mais ne se brise pas. C'est-à-dire que les gens continuent toujours d'écouter ses chansons, mais lui ne revient plus. C'est comme si ça marquait la fin d'une histoire d'amour. Quand on le revoit sur le continent africain, c'est généralement pour le Paris-Dakar, mais pas pour autre chose.
Merci Serge Billet.
Merci Sylvie Coffi.